Catherine, alors qu'elle s'appelle Irène, dans un autre film, Ingrid Bergman s'appelle Catherine. Et puis en second lieu, très imprudemment, on a écrit sur le petit carton, sur le tableau, en vestibule, qu'il y avait une discussion proposée par mon humble personne, mais Pierre Pitou et moi, nous étions bien d'accord pour qu'il y ait simplement un commentaire. Alors croyez-moi, chers amis, j'ai fait 2000 ou 3000 ciné-clubs, je ne sais plus, dans ma vie, et je suis très, très réservé, surtout si on est nombreux, et je crois qu'un petit commentaire très sérieux est plus efficace. Alors je commence tout de suite. Ce film que vous avez accueilli chaleureusement a souvent provoqué le sarcasme et la dérision. On a dit « c'est un mélo ». D'abord, on y pleure beaucoup, et puis il y a tous les éléments possibles de misérabilisme. Il y a la prostituée, il y a les délinquants, il y a les pauvres, les infortunés. Et alors, je crois que seul mon collègue et ami Jean Gilly, qui est un grand spécialiste de ce cinéma italien, a eu l'intelligence de comprendre que dans le néoréalisme, il y a une convergence entre le mélodrame et le fait divers. Et ça, c'est très très fort. Et en effet, si on prend tous les films néoréalistes depuis les débuts, depuis des années jusqu'à maintenant, en effet, c'est mélodramatique. Comme voleur de bicyclette, en un sens, est mélodramatique, bien sûr. Comme 11 heures sonnées est mélodramatique, mais c'est parce que le réel, si on l'aborde d'une manière franche et loyale, le réel en soi, c'est du mélo. C'est Jean Gilly qui le dit, mais moi il y a des années que je le pense. Tous ces événements qui se multiplient ici sont des événements qui tirent les larmes, qui sont mélodramatiques et pourtant qui sont vrais. Et aujourd'hui nous le savons, je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'ouvrir le journal, de regarder la télévision, les faits divers atteignent souvent une certaine horreur, que cette horreur rejoint l'excès du mélodrame. Voilà un point qu'il fallait éclaircir. En second lieu, Irène, appelons-la par son nom, Irène, n'est pas du tout un personnage exemplaire. Ce n'est pas un modèle. Et ceci jusqu'à la fin. Quand elle parle avec les interlocuteurs, elle dit « ce n'est pas l'amour qui m'a mue, c'est d'abord la haine de moi-même ». Donc ça c'est important, ça n'est pas le cheminement des saints et des saintes, ou même des grands témoins qui sont engagés. Donc c'est par haine d'elle-même, par horreur d'elle-même, et par désir de réparation qu'elle s'est plongée dans une attitude caritative. Ceci dit, et c'est là où le film devient plus subtil qu'il n'en a l'air, ceci dit, même si au départ, la polarisation de son amour, l'instinct qui l'a poussé, avait des raisons contestables, peu à peu, elle a été amenée à quelque chose. Il y a eu, enfin il faut dire le mot, une mutation. Moi je crois que tous les grands films de l'histoire du cinéma sont des films de mutation, depuis Chaplin jusqu'à Woody Allen. Je crois que c'est une clé pour aborder le cinéma, la mutation. Et dans le western, alors, ce n'est que ça, ce ne sont que des mutations, et dans le burlesque également. Eh bien, il y a une mutation, et peu à peu, elle a été pénétrée par quelque chose, alors, ou bien, si on prend une attitude spirituelle, elle a été élue, il y a une force qui vit sur elle, ou bien, il y a eu un cheminement intérieur qui fait qu'elle a été amenée à vouloir se pencher sur le prochain. Mais c'est là où le film me paraît très actuel. Parce qu'aujourd'hui, notre charité, notre intérêt pour le prochain est souvent quantitatif, statistique, spectaculaire. Là où on peut dire sans excès que Irène est évangélique, c'est que son amour est un amour personnel. Elle n'appartient pas à une société, elle n'appartient pas à un groupe. Et alors c'est ça qui est le second sujet. Il est incompréhensible pour un commissaire, pour un magistrat, pour un psychanalyste, pour un prêtre même, jusqu'à l'avant-dernière minute, pour un mari, pour une famille bourgeoise, qu'on se lance dans une espèce de démence caritative sans appartenir à un parti, sans appartenir à une religion. Elle n'est ni bouddhiste, ni chrétienne, ni communiste, ni socialiste. Elle est quelqu'un qui est une bonne samaritaine pour l'amour du prochain. Et la scène de la fin que je vous avais signalée me paraît capitale, il ne faut pas la minimiser. Ces messieurs graves, sérieux, très sérieux et très graves, se sont réunis et disent « Mais si vraiment elle était dans le vrai, mais nous n'aurions plus de raison d'être !» C'est là où le film est profondément anarchiste, mais comme saint Paul, si vous voulez, était anarchiste à sa manière, comme le Christ était anarchiste, au fond, ces gens-là respectent des règles. Vous avez lu dans le sous-titre. Et eux, ils représentent un ordre. Tous ces gens-là représentent un ordre, des règles, une tradition. Il faut que dans la société soit respecté ce que Renoir appelait la règle du jeu. Or, elle, c'est quelqu'un qui, par son débordement d'amour, enfreint ses règles. Alors non, c'est pas possible. Elle est indésirable. Alors, les gens indésirables, il y a plusieurs manières de s'en débarrasser. Vous savez, il y a une pièce de UNESCO qui s'appelle « Comment s'en débarrasser ?» Eh bien, on pourrait appeler Europe 51 « Comment s'en débarrasser ?» Ou bien, on les met en prison, ou bien on les met dans une clinique. Mais cette clinique, au fond, nous allons le voir, c'est en somme une prison. Alors, maintenant, je me propose en quelques instants de reprendre deux passages, mais très analytiquement. Parce que je n'ai pas assez parlé du style. Or, Europe 51, comme Voyage en Italie, c'est une écriture. C'est Georges Sadoul, oui, Georges Sadoul lui-même, qui a admiré le début de ce film. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un contraste étonnant, peut-être avoir vu le film deux fois, mais c'est de l'imaginer maintenant, entre le début et la fin. Au début, c'est une femme submergée par la modernité, un peu comme les personnages de Fulce, un peu comme Madame Deux. Je ne suis pas le premier à avoir établi un rapport entre Madame Deux et Irène. Ce sont des femmes prises par la modernité, un repas préparé, des gens à recevoir, des courses à faire en ville. Elle ne peut pas s'arrêter. Et elle ne peut pas s'arrêter une seconde pour s'occuper du petit garçon qui a besoin d'elle. Mais alors techniquement, si on voyait la séquence, la caméra la prend au moment où elle sort de l'auto et va l'entrer chez elle, et la caméra, en une série de travelling et de panoramiques, ne l'abandonne pas d'une seconde. Vous voyez ce que disait Rossellini, hein? Mais là, c'est ce que mon ami Claude Belli, à propos de Offus, appelait une frénésie ambulatoire. Mais c'est très joli ce terme-là, une frénésie ambulatoire. Et ça correspondrait parfaitement bien, hein, au film. C'est elle qui est mue par une frénésie. Elle ne peut pas s'arrêter. C'est pascalien, mais je crois que Rossellini accepterait. C'est pascalien, c'est ce que Pascal disait, le divertissement des gens qui ne peuvent plus s'arrêter. Et la caméra est là. Elle va, elle vient à droite, à gauche, et la caméra la suit. Donc, c'est le mouvement excessif des Irans. Elle est victime de ce mouvement mondain. Elle ne peut plus s'arrêter. De là le fait qu'elle ne donnera pas une seconde à ce petit garçon qui a besoin d'elle. Et alors, qu'est-ce qui s'oppose, chers amis, qu'est-ce qui s'oppose, mais de manière totale, à ce mouvement du début? Le statisme de la fin. Autant le début était mouvementé, autant les dernières images sont au contraire des images où la caméra ne bouge pas. Alors, rappelez-vous ces images, parce qu'elles donnent peut-être la clé du film. Elle vient d'être incarcérée, le mot n'est pas trop fort, dans cette maison. Alors, on la voit en plein américain. Et on voit son visage. Alors, remarquez que là, elle est habillée en teinte claire. Autour d'elle, il y a une sorte de cellule qui est en teinte claire. Et l'éclairage du chef opérateur est extrêmement clair. Donc, elle est à la fois dans la quiétude. Elle est vraiment dans la quiétude et dans la lumière. Je crois que cette image finale, enfin, ce n'est pas déliré, que de reconnaître qu'elle est vraiment étonnamment calme et paisible. Et c'est en opposition avec la frénésie du début, il y a l'arrêt, la quiétude. Bon, au fond, elle est dans une prison psychanalytique, mais elle est presque dans une quiétude monacale. Bon. Mais il y a autre chose dans cette fin. Au moment où elle est incarcérée, il y a deux groupes. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Il y a deux groupes. Il y a le groupe des gens sérieux. Le groupe des gens posés. Des gens raisonnables qui s'opposent aux côtés déraisonnables d'Irène. Ces gens raisonnables, si vous avez remarqué, ils sont plutôt en teinte foncée. C'est les adultes. C'est la sagesse du monde. Excusez-moi, je suis encore obligé de parler comme saint Paul. Sagesse du monde, folie de Dieu. Sagesse de Dieu, folie du monde. C'est la sagesse du monde. Alors, ils sont là, et en face de qu'est-ce qu'il y a? Il y a le groupe des gens qui ne sont pas cossus, ni nantis, ni sérieux, ni posés, c'est-à-dire les vieux, les indigents et les enfants. Et ils sont habillés, eux, au contraire, en teinte claire. Alors la parabole devient vraiment évidente. D'un côté, les teintes sombres, et de l'autre, les teintes claires. Et au moment où Irène est enfermée, ils se croisent. Vous avez une plongée. Non, mais la technique de ce film a l'air très simple et même très schématique. C'est pas vrai. Elle est économe, comme tous les films de réalisme, mais elle est absolument rigoureuse et étudiée. Alors, ils se croisent. Et alors, les gens qui sont déjà en teinte sombre, ils s'en vont. Ils s'en vont. Le moine d'Irène, ils s'en vont, ils abandonnent. Et ceux qui sont en teinte claire, les petits, les humbles, au contraire, eux, ils vont vers elle. Et vous avez remarqué qu'il y a un mouvement de caméra. Il y a un léger panoramique circulaire qui nous montre ces enfants. Et enfin, dernière remarque technique, c'est qu'il y a un champ contre champ à trois reprises. Il faudrait revoir la séquence. Un champ contre champ à trois reprises entre le visage d'Irène et le groupe des malheureux, des infortunés, des gens qui ne sont pas repus ni nantis. Donc il y a une communication. Donc c'est plus besoin de discours à ce moment-là. La musique suffit. Plus besoin de commentaires. Simplement l'image même, le champ contre champ, tout comme le panoramique, tout comme les visages, nous montrent la communion, la communication entre les petits et Irène. Dans toutes les traditions, non seulement chrétiennes, mais de tous les pays, les petits, les humbles, les malheureux, ceux qui ne sont pas repus, ceux qui ne sont pas nantis, sont des personnages élus. Donc elle a fait le passage. Elle a fait le passage, Irène. Elle a fait le passage dans la souffrance. Elle est passée, cette traversée du désert n'a pas été une traversée du désert inutile. Elle est passée par la souffrance, elle est passée par la solitude, et alors cette souffrance, les dieux lui ont donné la communion. Je ne sais pas si le mot est prononcé, je ne crois pas l'avoir mis dans les sous-titres, enfin, c'est ça le mot essentiel. Quand je dis communion, c'est au sens laïque, hein, c'est pas au sens eucharistique, donc je ne parle pas d'eucharistie. Je dis, il y a une communion. Qui pourrait être inspiré par ce qu'écrivait le jeune Marx, parce qu'il faudrait savoir ce qu'écrivait le jeune Marx en 1845. Il disait des choses très intéressantes là-dessus. Donc une communion qui pourrait être inspirée aussi bien par Marx que par Jésus. Une communion, donc, entre ces malheureux et puis elle. Et tout au long du film, et je conclue, à travers ça, sa maladresse, son illuminisme, mais bien sûr, il est trop facile de s'acharner sur elle. Je sais que j'ai eu des débats très douloureux à Paris comme à Montpellier où on s'acharnait sur elle. Il est très facile, surtout quand on est nanti, confortablement installé, et qu'on se contente d'envoyer quelques billets pour les malheureux de Bosnie-Herzégovine ou d'ailleurs, il est très facile de s'attaquer sur elle. Mais oui, je répète pour finir que Ingrid Bergman, admirablement dirigée par Rossellini, ça, vraiment exemple exceptionnel d'une entente entre une interprète et un metteur en scène, a montré combien elle était illuminée, elle était traquée par une espèce de remords, et en même temps, comment elle était envahie par. Et je crois que les dernières images nous montrent qu'en effet, c'est pour ça que j'ai parlé d'élection. Il y a quelque chose en elle qui la dépasse. Elle est envahie si, avec le garçon qui s'ivre à la police, si avec la fille qui a une crise délirante dans la maison des folles, si elle arrive à être efficace, c'est bien qu'il y a en elle quelque chose. Alors, il y a une vingtaine d'années, quand je préparais au concours de l'Institut des études cinématographiques, un de mes élèves, les plus ouverts, avait dit « Ce film est un film hindouiste ». Moi, ça m'est égal. Peut-être, je veux bien qu'il soit hindouiste ou qu'il soit catholique, qu'il soit orthodoxe ou qu'il soit protestant. Mais en tout cas, il y a un caractère commun entre les religions, entre les morales, entre les éthiques de tous les pays, c'est le fait de se vider de soi-même. Aujourd'hui, les nombreuses personnes qui font du zen ou du zazen ou qui suivent le Tao ne font pas autre chose. C'est la même chose, c'est se vider de soi. La crise qu'a vécue Irène, que peut-être elle a mal assumée, lui a permis de se vider, et au fond c'est ça qu'elle désire. Elle le désire maladroitement, elle le désire d'une manière qui n'est pas au point. Elle manque encore de maturité, bien sûr. Enfin, là, ce n'est pas fini. C'est pas fini, l'histoire. L'histoire va continuer. L'histoire continuera. Elle manque de maturité. À ce moment-là, c'est sûr. Mais en tout cas, le cheminement qu'elle a eu lui permet de se vider de soi et de s'ouvrir. Et vous, il y a quelque chose qu'on retrouvera dans Fellini. Et s'offrir, c'est pas ce qu'est une sonorité, s'offrir, mais s'offrir en souffrant, et pour ça il faut s'ouvrir. Et justement ce monde que Rossellini dénonce, qu'il faut dénoncer, c'est un monde fermé. Je répète que le film est autant une satire du monde confortablement installé dans sa sécurité éthique et sociologique, c'est autant ça que l'histoire d'Irène. Ils sont là, à l'univers fermé. Vous savez, cette notion de l'ouvert et du fermé, moi, quand je faisais des cours à mes élèves de seconde, ou même à mes élèves de la fac, j'étais amené toujours à insister là-dessus. Il y a l'ouvert et le fermé. Bon, eh bien, finalement, oui, je crois qu'il faut s'arrêter, finalement, mais ça tombe très bien, je voulais terminer là-dessus, parce que l'ouvert, c'est pour nous, n'est-ce pas? Si ce film nous a ouvert, alors la partie est gagnée. Merci.